Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international qu'on retrouve du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Amélie Perrault et Nicolas Sendé, mais aussi Margot Leridon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Edouard Rubinstein. Quatrième et dernier volet de notre série consacrée aux guerres de demain. Après nous être intéressés lundi à notre armée pour regarder comment elle se prépare au conflit de demain. Après nous être intéressés mardi aux sociétés militaires privées et enfin hier au cyberespace comme nouveau champ de bataille. Il est temps aujourd'hui de questionner la préparation de la paix quand rien n'est tranché militairement sur le terrain. De l'Afghanistan au Yémen en passant par le Mali, de récentes libérations négociées de combattants nous interrogent. Libérer les combattants, est-ce signe de dialogue et donc de paix possible, ou le risque d'une remise en liberté de ceux qui ont pris part bien activement à ces conflits? Pour démêler les fils de ces choix politiques et militaires, partons du côté du Mali.
Les militaires de Serval, puis de la mission Barkhane, en avaient capturé plusieurs d'entre eux ces dernières années. Depuis le 3 octobre dernier, plusieurs dizaines de prisonniers présentés comme djihadistes, entre 100 et 200 hommes selon les sources, ont été libérés des geôles de Bamako.
Je pense qu'il faut voir en cela une opportunité d'engager de vastes discussions avec les communautés, la nécessité d'un séquençage et d'une coordination avec et nos partenaires, notamment ceux qui interviennent sur le plan militaire dans notre pays.
Il y aura des groupes avec lesquels on pourra parler et qui auront intérêt à s'engager dans ce dialogue pour devenir des acteurs politiques dans le futur. Mais il reste ceux dont le radicalisme terroriste est tel qu'il n'y a rien à faire avec eux.
En début de semaine, à Bamako, les voix de Jean-Yves Le Drian et du Premier ministre malien de transition Mokhtar Wane ne semblaient pas très accordées. L'un parlant de vastes discussions, l'autre de groupes avec lesquels on ne peut pas parler. Tout le monde ne semble pas prêt à discuter avec les groupes djihadistes présents au Mali et plus largement dans la région du Sahel. Début octobre, la libération de l'otage française Sophie Petronin ainsi que celle du responsable politique malien Soumaïla Cissé et de deux autres otages italiens s'est faite contre la remise en liberté de plus de 200 combattants, une négociation à laquelle la France affirme ne pas avoir été mêlée et dont on peut se demander si elle ouvre une nouvelle phase au Mali, celle de la possibilité du dialogue pour apaiser le niveau de violence. Mais dialoguer avec les groupes djihadistes, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Quel risque y a-t-il à accepter la remise en liberté de combattants? Faut-il voir dans ce type d'accord un signe de paix ou une trop grande prise de risque? Les autorités de transition du pays qui vient de connaître un récent coup d'État en août dernier pourront-elles gagner le pari de la paix? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Antoine Glaser. Merci Antoine Glaser d'être avec nous ce matin. Probablement le dernier invité ici en plateau. Enfin, on verra, mais
le dernier des Mohicans.
Ouais, peut-être. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent. Vous aviez signé il y a deux ans chez Fayard avec Thomas Hofnung, Nos chers espions en Afrique. Merci d'être là avec nous depuis Dakar. Jean-Hervé Jézéquel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Vous êtes directeur de projet Sahel à l'International Crisis Group, qui est un centre de réflexion qui analyse un peu les situations de crise et qui formule des recommandations. D'abord, on va peut-être commencer avec cet échange sur lequel il y a énormément de choses à dire. Si l'on s'en tient au pur bilan comptable, numérique, Antoine Glaser, on a la libération de quatre otages, donc une Française, un Malien et quatre Italiens. Et en face de cette libération, on a la remise en liberté de plus de 200 combattants. D'un point de vue purement numérique, ça semble extrêmement déséquilibré comme échange. Mais on sait bien que dans ce genre de cas, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Et au fond, toutes les vies ne se valent pas parce que tous les otages ou prisonniers n'ont pas la même valeur politique. Quel regard vous portez, Antoine Glaser, sur cet échange? Est-ce qu'il vous semble équilibré, symétrique ou pas du tout? Et peut-être que de cette asymétrie, il faut regarder ce qu'on cherche à faire de façon plus générale. Antoine Glaser.
Je pense qu'il faut aller au-delà, effectivement. Il ne s'agit pas de l'échange de 204 détenus djihadistes dont un certain nombre d'entre eux ont quand même du sang sur les mains, contre quatre otages. Effectivement, Sophie Petronin, et surtout Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, et les deux Italiens. Je pense qu'il faut voir au-delà. Je pense qu'il y a un processus dans ce pays qui est enclenché de dialogue. C'est un processus qui a été engagé avant même le coup d'État du mois d'août 2020 au Mali, avec l'arrivée d'un certain nombre de militaires, d'une junte, même s'ils ne sont pas au pouvoir, même s'il y a un gouvernement de transition, mais ils pèsent de plus en plus dans la vie politique de ce pays. Il y a deux choses. Il y a la première, quand vous êtes, évidemment, c'est vraiment du côté malien, on voit qu'il y a une sorte de désespérance et une volonté quand même de s'en sortir. Vous avez quand même les trois quarts du pays qui sont plus contrôlés par l'État. Vous avez des territoires abandonnés. Vous avez là tous les enfants de 6 ans à 14 ans qui vont plus à l'école. Enfin, il y a un vrai problème de gestion du pays, de gestion globale. Ça, c'est le côté malien. Ceci dit, à partir du moment où parmi ces djihadistes qui ont été libérés, vous avez un certain nombre d'entre eux qui ont du sang sur les mains et, je veux dire, une impunité intolérable.
Ouais, et évidemment, cette question de la justice est importante, parce que pour construire la paix, on peut pas le faire complètement en laissant de côté la question de la justice. Jean-Hervé Jézéquel, vous êtes avec nous depuis Dakar. Antoine Glaser nous parle de cette nouvelle ambition, au fond, d'ouvrir une phase de dialogue. Il rappelait Antoine Glaser qu'il y a effectivement eu un coup d'État en août dernier. Jusqu'où est-ce que vous, Jean-Hervé Jézéquel, vous liez précisément l'arrivée d'un nouveau pouvoir à ce désir d'enclencher un processus de négociation?
Non, je suis d'accord avec Antoine Glaser là-dessus. Je pense que c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années. Il y a un débat au sein de la société malienne sur cette question de la sortie de guerre. Comment est-ce qu'on sort de cette guerre-là? Est-ce que, au fond, les opérations militaires seront suffisantes? Clairement non. Et donc, quels sont les autres moyens? Et donc, la question du dialogue qui a été mise sur la table il y a déjà plusieurs années par un certain nombre de chefs traditionnels, d'acteurs politiques. Et puis, voilà, progressivement, les cercles se sont élargis jusqu'à gagner, il y a eu une conférence d'entente nationale qui a mis sur la table cette question du dialogue. Ensuite, un dialogue national inclusif, en fin d'année dernière, qui l'a remise encore, jusqu'à cette prise de position du président Ibeka en mars 2020, ouvrant la perspective d'une tentative du dialogue. Encore une fois, on est aussi dans les prémices, on est dans l'exploration de cette voie-là. Le pouvoir actuel, disons, s'inscrit dans cette lignée-là, peut-être la pousse un peu plus loin. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de voir du côté des autorités maliennes. On aurait pu peut-être s'attendre de leur côté à ce que, parce qu'un peu fragile, elles prennent un peu le temps plutôt de consolider les alliances. Or, il semble qu'elles soient plutôt désireuses d'accélérer un petit peu cette entrée dans le dialogue avec une partie des groupes djihadistes.
Et qu'en est-il justement du côté des...
On ne sait même pas si de l'autre côté les gens...
Pardon, excusez-nous, il y a un décalage, évidemment, Jean-Hervé Jézéquel, donc on va essayer de faire avec. Mais il y a, j'entends, cette ambition de rassembler les conditions du dialogue du côté de Bamako, et vous nous le dites, en fait, cette ambition existait avant l'arrivée d'une nouveau pouvoir, avant le coup d'État d'août dernier. Mais qu'en est-il du côté des groupes armés? Il va falloir d'ailleurs distinguer un peu les choses, parce que il y a un paysage qui est extrêmement complexe. Mais est-ce que vous avez le sentiment que on est réceptif à cet appel du pied? Est-ce que, par exemple, si l'on regarde les niveaux de violence, on a senti, depuis la libération de ces otages, clairement une réduction de la violence, ou pas du tout?
Alors, en fait, quelques jours après la libération, il y a eu des opérations militaires revendiquées par l'un des groupes, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est donc le groupe d'Iyad al-Ghali, qui est le principal groupe autour duquel s'est noué cet échange d'otages et de prisonniers. Donc non, à court terme, en fait, en réalité, les signes qui ont immédiatement précédé la relâche ne sont pas des signes positif ou des signes qui indiquent une volonté de dialogue. Dans le même temps, d'ailleurs, l'opération Barkhane procédait elle aussi à des opérations dans deux régions du Mali, et donc indiquait elle aussi d'une certaine manière, en reprenant des prisonniers, que au fond elle n'était pas elle non plus très très disposée à cela. Après, il faut sans doute s'élargir un petit peu le regard. Il y a un an de cela, il y avait des opérations majeures hein, de la part de l'État islamique et du JNIM dans ces régions-là, avec des attaques qui parfois faisaient plus d'une centaine de morts hein, du côté des forces de défense et de sécurité. Ces attaques-là, elles ont pour l'instant cessé, les attaques de grande envergure. Elles ont également, il faut regarder aussi au-delà du Mali en fait, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger, là aussi on a toujours des attaques de faible intensité, mais on n'a plus les grandes attaques qu'on a pu observer l'année dernière. Alors c'est difficile à interpréter, mais une des manières possibles d'interpréter cette espèce de répit, c'est que on rentre dans un cycle plutôt de dialogue élargi. Est-ce que les groupes djihadistes qui sont donc, comme vous le précisez, hein, qui sont divisés, est-ce que ces groupes djihadistes là sont disposés à ce dialogue? Rien n'est vraiment très clair, pour être honnête. Côté de l'État islamique, par exemple, il a été, l'État islamique se positionne comme au fond le groupe qui n'est pas disposé, qui n'est absolument pas disposé au dialogue. Et d'ailleurs, une partie de leur communication vise à critiquer le JNIM parce que c'est justement une organisation qui, elle, serait prête au compromis. En réalité, même du côté du JNIM, ces compromis-là sont pas clairs. Suite à la prise de position du président Ibeka en début d'année, qui avait donc un peu tendu cette main hein, pour le dialogue, les djihadistes de leur côté avaient dit être disposés à ce dialogue, mais y posaient une condition qui apparaissait inacceptable, c'était le retrait des troupes françaises et des troupes des Nations Unies, hein, donc la mission MINUSMA, comme préalable en fait à toute ouverture de dialogue.
Quoi. Oui, on va y revenir justement, mais je précise hein, pour les auditeurs, le JNIM, c'est le Jamaat Nusrat al-Islam, qui est le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, qui est un groupe très important, effectivement, affilié à Al-Qaïda. Antoine Glaser, la grande difficulté avec ces groupes, y compris ceux qui se revendiquent d'Al-Qaïda, qui se revendiquent de Daesh, c'est que en réalité, parfois, lorsqu'on le fait, c'est par pur opportunisme. C'est-à-dire que il n'y a pas derrière forcément l'attachement à une idéologie, à un projet qui dépasse les frontières maliennes. C'est ça là aussi la difficulté. C'est comment s'y retrouver au fond entre les combattants qui répondent seulement à un agenda local et ceux qui, en effet, sont dans une démarche plus globale, d'imposition du djihad tout azimut. Très difficile de s'y retrouver, y compris dans les groupes djihadistes.
Oui et non, hein, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit ça d'une façon très claire, de plus en plus claire. Vous avez d'un côté vraiment ce qu'on appelle les filiales maliennes ou les franchises de Al-Qaïda du Maghreb islamique. Il faut toujours rappeler qu'Al-Qaïda du Maghreb islamique, c'est l'ancien GIA algérien, c'est-à-dire les Algériens qui ont exporté dans les pays voisins, finalement, les islamistes radicaux et qui est devenu Al-Qaïda. Al-Qaïda a des franchises maliennes, donc ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de M. Iyad Rally qui devient, en quelque sorte, l'homme fort du nord du pays.
Qui est un des combattants qui a été libéré, hein, des 200.
C'est-à-dire, Iyad Rally, c'est lui qui a fait la fête avec tous les détenus, hein, qui a fait la fête avec toutes les détenues qui ont été libérées. Lui a fédéré l'ensemble des Maliens djihadistes, ça veut dire lui-même, les Touaregs et les Peuls du centre du pays, d'une quête qu'on appelle la Katiba du Massina, de Amadou Koufa. C'est lui qui gère ça. Et la stratégie, finalement, de dialogue de la junte, c'est de dire, finalement, on va séparer. Il y a Al-Qaïda d'un côté, mais les Al-Qaïda du Maghreb, là, il y a hier et avant-hier, ils ont jugé trois djihadistes qui avaient justement été à l'origine des attentats du Radisson et aussi de la terrasse à Bamako, qui ont été condamnés à mort. Donc la junte veut montrer que tout ce qui ne sont pas les Maliens, les djihadistes, qui ne sont pas Maliens, ils les jugent et les condamnent à mort.
D'accord.
Pour montrer que là, il n'y a pas impunité.
Et après, est-ce qu'on est aligné sur... Je vous laisse poursuivre.
Oui, mais il faut bien comprendre, on voit bien, je pense moi que même, pas simplement les Maliens, je pense même que quand on a entendu au sommet de Pau, quand on a vu que finalement le président, finalement Emmanuel Macron, fou furieux de voir les sentiments anti-français et autres qui avaient convoqué les chefs d'État, il a quand même dit à plusieurs reprises, l'ennemi de la France dans cette région, c'est vraiment l'État islamique, ça veut dire Daesh. Et il n'a pas, et Al-Qaïda, le seul type d'Al-Qaïda qui a été tué, qui était Drugdel, qui était un Algérien, qui arrivait d'Algérie, qui a été tué à la frontière. Alors, on a l'impression que maintenant, il y a vraiment une espèce de volonté de dire, finalement, il y a les franchises, il y a les filiales maliennes de Al-Qaïda. Avec qui sont les Touaregs? Les Touaregs, ils se sont alliés à Al-Qaïda, mais à l'origine, il y a Tralis, ce qu'il voulait, lui, c'est l'indépendance.
Qui est un Touareg malien,
du nord du pays, qui était en Libye avant finalement la chute de Kadhafi, qui combattait en Libye. Donc, on voit bien que ce dialogue est intermalien.
Voilà, donc si je résume la situation, Antoine Glaser, on a un paysage qui est de plus en plus clair, le dites-vous, par lequel on a des groupes armés et des djihadistes locaux, nationaux, et puis les autres. Donc, en gros, on veut bien dialoguer avec les nationaux, les Maliens, et les autres, on veut les écarter. C'est un peu ça le principe. Jean-Hervé Jézéquel, on est exactement sur la même position du côté de Paris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque Jean-Yves Le Drian a l'air d'exclure tout un pan des groupes terroristes? Quels sont pour vous les acteurs avec lesquels Paris ne veut pas discuter, et jusqu'où est-ce que c'est un problème pour organiser ce dialogue interlibyen qui se veut le plus inclusif possible, Jean-Hervé Jézéquel?
Alors, en réalité, je pense que la position française, elle n'est pas nécessairement complètement clarifiée ou assumée. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hésitations sur la marche à suivre. Au fond, on regarde les 7 dernières années qui viennent de se dérouler, lors desquels on a privilégié avant tout un outil sécuritaire. Évidemment, on faisait d'autres choses, on faisait un peu de développement, un peu d'appui à la gouvernance, mais au fond, l'objectif premier, il était sécuritaire. Il s'agissait de contenir et de réduire ces groupes djihadistes-là. Or, après 7 ans de cette stratégie, ça ne fonctionne pas, quoi. Et donc, je crois que même au sein, au fond, de l'équipe France, on se pose des questions sur l'opportunité d'adopter une autre position. Et l'une de ces positions, c'est de dire, voilà, écoutons un petit peu les acteurs sahéliens. Les acteurs sahéliens disent qu'ils peuvent discuter avec la partie des djihadistes qui a, au fond, cet agenda local. Je crois que tout le monde n'est pas convaincu de cela, du côté des Français. Et je pense qu'une partie des Français doute sérieusement, au fond, de la capacité de groupes comme le JNIM ou d'individus comme Yad Agrali, au fond, d'avoir un agenda qui s'autonomiserait de la nébuleuse Al-Qaïda. En faisant cela, ce genre d'individu s'exposerait peut-être lui aussi au fond à des menaces de la part de l'organisation à laquelle il appartient. Et donc il reste encore à démontrer cela. Il reste à démontrer d'abord que des individus comme Yad Agrali ont réellement la volonté au fond d'avoir un agenda qui serait à la fois local et qui serait aussi acceptable, parce que même un agenda local, encore faut-il qu'il soit aussi acceptable et audible par les politiques locaux. Et ensuite, il faudrait savoir si cela serait possible en interne chez eux, au fond. Que gagnerait Yad Agrali au fond à un peu prendre ses distances par rapport à un agenda plus international qui est celui d'Al-Qaïda.
Et alors justement, s'agissant des revendications sur Hervé Jézéquel, quelles sont-elles? Par exemple, si on prend Yad Agrali, dont on sait qu'il c'est une figure incontournable, Touareg malien, donc a priori homme qui est susceptible de se retrouver à la table des négociations avec les autorités de Bamako, lui, que veut-il?
Alors, bon, d'abord, il faut un petit peu, à mon avis, aussi nuancer cette perception liée à l'Agrali comme le Touareg du Nord. Oui, il l'est, et oui, cela lui donne un certain crédit. Mais quand on le voit s'asseoir au milieu des combattants libérés, on voit bien qu'il se pose en rassembleur en fait de populations ou de combattants issus de groupes ou de communautés qui vont bien au-delà, au fond, de sa seule communauté d'origine à lui. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quelles seraient ces revendications. Une des manières, au fond, de disqualifier le dialogue, c'est de dire ces gens-là n'ont pas d'agenda politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est au fond appliquer la charia, l'appliquer par la force, et ça, ce n'est pas négociable dans la République malienne. En réalité, quand on se pose la question du dialogue, on peut voir qu'il y a des éléments de ce discours-là qui pourraient être négociés. Par exemple, la question de la justice. La question de la justice, c'est notamment de qui rend la justice. Une des questions autour desquelles les djihadistes, au fond, ont réussi à développer leur emprise en société malienne, c'est la question de la justice. Le fait que la justice soit éminemment décriée au Mali, le fait que les djihadistes soient capables de proposer, eux, leur forme de justice, qui est une justice certes rapide, parfois un peu expéditive, mais qui est une justice qui est aussi désirée, parce qu'elle rend des jugements, fait qu'on aurait tout intérêt aujourd'hui à faire de la question de la justice, parmi d'autres, hein, une des questions autour desquelles on pourrait effectivement négocier. Je pense qu'il y a toute une série comme ça, au fond, d'approches sectorielles, la question de la justice, la question de l'éducation, la question de la forme aussi, de la forme laïque, au fond, de la République, qu'est-ce que veut dire laïcité, qu'on peut discuter.
D'accord.
Dire que l'on discute, ça ne veut pas dire qu'on cède et qu'on cède à toutes les revendications du camp adverse. Ça veut dire qu'on se met autour d'une table de négociation et qu'on voit, au fond, s'il y a des points de rencontre ou pas.
Alors justement, Antoine Glaser, on peut discuter, mais encore faut-il trouver un compromis. On le voit, Jean-Hervé Jézéquel nous le dit, on a des revendications qui sont extrêmement disparates entre ceux qui demandent l'autonomisation du Nord-Mali, entre ceux qui demandent plus prosaïquement des investissements pour développer ces territoires qui sont restés à la marge pendant des décennies, entre ceux qui demandent l'instauration de la charia. Est-ce qu'on peut, au-delà de discuter ces sujets-là, est-ce qu'on peut construire un consensus? Parce que pour espérer obtenir la paix, il y a un moment où il faut construire un consensus. Est-ce qu'on peut y arriver?
La grande difficulté, c'est vraiment, parce qu'on parle de justice, c'est le problème de l'impunité. Ça veut dire, autour de Iyad Riyad Rally, c'est vrai que lui, il a quand même autour de lui des lieutenants. Il y a des gens qui ont vraiment du sang sur les mains. Enfin, moi, je suis d'autant plus gêné que je suis dans l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés le 2 novembre 2013. Ça veut dire, ça va être l'anniversaire. Et c'est bien, on sait, il y a les noms qui sont cités de lieutenants de Iyad Rally qui sont eux-mêmes impliqués, qui sont dans les procédures de la justice française. Donc il y a ce
journaliste d'RFI, hein.
Les journalistes de RFI, absolument. Ghislaine Dupont et Claude Verlon qui ont été assassinés. Et il y a encore l'impunité. Il n'y a pas eu encore la justice avance. Donc ça, c'est un vrai problème. Le reste, le grand souci, là, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi l'acteur masqué de toute la région, qui est l'Algérie. Je veux dire, quelque part, on s'est dit, est-ce que c'est pas plus, s'il n'y avait pas le problème entre l'Algérie et le Maroc, à ses voisins de gérer finalement les relations avec de ce qui se passe dans toute cette zone, cette crise sahélo-saharienne, plutôt qu'à la France? Il y a aussi cette question-là qui commence à se poser. Et on voit bien que c'est pas hasard si Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, si le chef de la diplomatie française est passé à Alger, parce que l'Algérie est un acteur majeur dans la région. C'est pas hasard si le président Tebboune a dit récemment, dans un tweet, la solution malienne est à 90% algérienne. Ouais. Ça veut dire, où est-ce qu'il va Iyad Rally? Il est du côté algérien. Il passe la frontière constamment. Une dernière chose, quand vous avez un téléviseur qui vaut moins cher à Kidal qu'à Bamako, qui est à 1500 kilomètres, vous voyez bien que toute la vie économique, sociale et économique du nord du Mali passe par l'Algérie. Pas parler de l'Algérie, c'est ne pas comprendre à quel point la France est aussi marche sur des œufs, parce que il y a l'Algérie, il y a la Galice. Finalement, que la France les neutralise, comme ils disent pudiquement, Droukdel, le chef d'Al-Qaïda, ça les dérange pas. Par contre, jusqu'à présent, il y a Akali est totalement, il a l'impunité, il fait ce qu'il veut dans toute la région.
Alors, peut-être encore un mot, justement, Jérôme Jézéquel, et puis ensuite, on va passer, j'allais dire, dans l'autre camp, parce que là, on parle beaucoup du camp des insurgés, parce que c'est effectivement un point sur lequel il faut s'attarder longuement pour comprendre si on peut espérer la paix, mais il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des autorités de Bamako, d'autant qu'il y a eu, je l'ai dit, un coup d'État, qu'il y a donc de nouvelles figures qui ont émergé, donc il va falloir regarder si, au fond, ce sont les bonnes personnes qui sont désormais en place pour construire cette paix. Mais si on poursuit un tout petit peu sur ce qu'en dit Antoine Glaser, il a raison, il y a effectivement eu ce tweet du président algérien, Tebboune, qui dit « S'il y a solution au Mali, elle sera 90% algérienne ». On sait bien sûr l'influence de l'Algérie dans cette partie nord du Mali. Est-ce que vous pensez, vous, comme Antoine Glaser, que rien ne sera possible sans Alger? Et l'autre question qu'il y a derrière, c'est aussi jusqu'où Alger a la capacité d'influencer, voire même carrément de tordre le bras aux groupes qui, pour le moment, ne sont pas enclins à envisager ni ces pourparlers, ni cette paix. Parce qu'il y en a, il faut rappeler juste, et je vous laisse poursuivre, qu'il y avait eu ces accords d'Alger de 2015... qui ont été très importants, auxquels tout le monde à peu près se réfère aujourd'hui, mais qu'à l'époque, certains groupes avaient commencé par paraffer, puis finalement pas signé. Donc on voit bien que, y compris sur ce qui permet un peu de créer du consensus, y compris là-dessus, on a des soucis.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que rien ne sera possible sans Alger, mais que d'un autre côté, Alger ne peut pas tout. Et Alger n'est pas toute puissante, et il faudrait aussi se garder de réduire les groupes djihadistes à des petites marionnettes qui seraient dans les mains de puissances étrangères. Quand on élargit un petit peu le regard, enfin, on voit que cette problématique djihadiste, elle va bien au-delà du nord du Mali. D'abord, elle est très développée au centre du pays, et là, on a des connexions qui sont beaucoup moins évidentes avec ce qui se passe en Algérie. Mais surtout, elle s'étend aujourd'hui dans bien des parties du Burkina Faso, elle s'étend sur une partie du Niger, et puis elle va aussi de plus en plus commencer à se connecter aussi à des dynamiques qui ont lieu autour du bassin du lac Tchad. Il y a de la circulation, et donc là on est face à une problématique, si vous voulez, dont au fond l'équation malienne, ou dont la partie malienne n'est qu'une partie de l'équation, si vous voulez. Une partie importante, et résoudre cette partie de l'équation serait une grande aide, mais ne résoudrait pas l'ensemble, au fond, des situations insurrectionnelles que l'on observe du Mali jusqu'au lac Tchad. Donc je pense que oui, effectivement, il faut écouter les Algériens, oui, il faut associer les Algériens, oui, la France et l'Algérie doivent mieux harmoniser au fond leur approche, et sur ce point-là, il y a à l'évidence une divergence.
Sur quoi en particulier ?
Encore plus importante que celle qui est en train de se... Sur cette approche-là, au fond, c'est-à-dire que la France, depuis le départ, au fond, a privilégié l'utilisation de l'outil militaire. Quand dès 2012, l'Algérie était sur une piste qui était beaucoup plus politique. Il faut se souvenir.
Oui, mais j'entends bien. Mais alors, du coup, que demande Alger ? Est-ce que l'Algérie souhaite tout simplement que l'on retire les soldats de Barkhane, que l'on allège les effectifs ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Pour s'aligner, il faudrait quoi ?
Alors ça, il faut le demander aux Algériens. Exactement ce qu'ils demandent. Aujourd'hui, les Algériens, ils ont soutenu un accord, ils ont accueilli des négociations, et ils sont au fond autour de... ils sont en soutien de cet accord qui n'a pas associé les djihadistes. C'est intéressant de noter que lorsqu'en 2012, c'est ce que j'allais dire, lorsqu'en 2012, Alger commence à soutenir une résolution politique de la crise au Mali, ils invitent des représentants d'Yad Agrali à Alger. Lorsqu'ensuite, les pourparlers de paix, après l'intervention française, donc qui impose en fond cette solution militaire qui était sans doute nécessaire à ce moment-là, lorsque de nouvelles négociations s'ouvrent à Alger à partir de 2014, par contre là, on n'a plus cette association de représentants directs au fond des groupes djihadistes. C'est peut-être ça qu'il va falloir retrouver aujourd'hui. Mais Alger n'a pas, à ma connaissance en tout cas, Alger n'a pas exprimé l'idée de relancer, de rouvrir un nouveau processus politique. C'est peut-être là un petit peu l'ambiguïté du côté algérien, c'est qu'à la fois il souligne les limites de l'approche sécuritaire française. Et quand il s'agit de relancer un processus politique, au fond, il reste un petit peu arc-bouté sur l'accord d'Alger, celui qu'ils ont accueilli. Et ils n'ont pas encore clairement dit qu'il fallait peut-être lancer un processus plus large ou un processus parallèle qui associerait ces groupes djihadistes.
Oui, peut-être parce qu'ils attendent de savoir ce qui va se passer du côté de Bamako, si ce sont des acteurs crédibles pour justement engager ce dialogue. On sait ce qu'on va regarder tout de suite, parce qu'on a ce processus de transition qui a été mis en place, avec un président de la transition, Bado, qui est un militaire à la retraite, donc officiellement un civil. On a un vice-président, Assimi Goïta, qui est l'un des principaux militaires qui avait organiser le coup d'État. Et puis, on a un nouveau Premier ministre aussi, Mokhtar Wane.
L'arrivée dans cette salle et l'installation de Monsieur le Premier ministre prévient servir la nation en un moment des plus difficiles.
Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment.
Voilà, donc cette voix, c'est celle de Mokhtar Wahn, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères du temps du président Touré. Il a été également ambassadeur du Mali à l'ONU. C'est un spécialiste des questions de paix et de sécurité. Par ailleurs, il est originaire de Bidi, qui est au centre du pays, qui a été particulièrement touché par les attaques djihadistes. Antoine Glaser, est-ce que ce Mark Wahn, ce nouveau Premier ministre de la Transition, est la personne idoine pour ouvrir les pourparlers avec les groupes armés, aussi divers soient-ils?
Je ne crois pas que ce soit lui qui ouvrira vraiment les négociations. C'est un homme de consensus. C'est un homme, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a toujours les colonels putschistes sont quand même toujours extrêmement présents. Ils ont pris non seulement la défense, la sécurité, mais ils ont pris aussi le portefeuille de la réconciliation. Ils ont pris aussi le portefeuille de l'administration territoriale. Ça veut dire clairement que, en clair, c'est nous qui allons organiser les élections. Ils se sont engagés auprès de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, de faire ces élections dans 18 mois, ce qui semble assez optimiste. Et donc, on voit bien que, et il marche, Premier ministre, il marche sur des œufs. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même là une espèce de consensus. Pour la première fois dans le gouvernement, il y a eu des ministres d'origine Touareg qui ont été intégrés dans le gouvernement. Il y a eu aussi des personnalités des groupes armés. Il y a eu aussi des gens de l'imam Diko, même si l'imam Diko actuellement l'imam Diko, c'est le chef qui avait à un moment donné, qui était vraiment à l'origine du mouvement populaire qui a obtenu le départ de Ibrahim Boubacar Keïta.
Même s'il n'appartenait pas directement à ce groupe M5 qui avait obtenu
Exactement, ça a déstabilisé le pouvoir. Et c'est là ensuite que est arrivé le putsch au mois d'août. Et c'est évident que actuellement, ils se cherchent, tout le monde se cherche. Vous aviez il y a 48 heures à Bamako le Haut Conseil islamique qui a réuni ses proches, où il y avait aussi l'imam Diko contre Emmanuel Macron, ce qui se passe en France sur tout ce qui est au niveau de l'islam, de la réforme de l'islam en France. Ils sont extrêmement. Maintenant, on n'est plus dans la France-Afrique, on est aussi dans l'Afrique-France. Hein, faut pas se leurrer, ça marche dans les deux sens. Et donc, vous avez en ce moment à Bamako, vous avez effectivement des institutions, des structures, des choses qui sont en place, mais les rapports de force ne sont pas encore totalement établis.
Jean-Hervé Jézéquel, vous rejoignez Antoine Glaser qui nous rappelle quand même qu'effectivement les militaires ont encore la main sur ce gouvernement de transition, qui nous rappelle qu'ils ont quatre portefeuilles régaliens stratégiques, la défense, la sécurité, la réconciliation nationale et l'administration territoriale. C'est effectivement pas rien. En gros, ils ont l'essentiel des affaires. On a par ailleurs cet imam Diko qui effectivement avait été à l'origine de cette fronde contre l'ancien président, qui a obtenu au fond sa mise à l'écart, qui aujourd'hui est devenu aussi cette figure incontournable du paysage politique. Est-ce que Mokhtar Wahn a encore, dans ce contexte-là, des marges de manœuvre ou pas du tout? Il a eu récemment le soutien d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, mais est-ce que ça va suffire?
Non, je rejoins complètement Antoine Glaser sur cette idée qu'au fond, les étoiles, en quelque sorte, s'alignent en faveur d'une... une renégociation politique, non seulement d'ailleurs avec peut-être une partie des acteurs djihadistes, mais plus largement avec les groupes signataires. C'est vrai que, par exemple, l'intégration de quatre ministres de la CMA et puis de la plateforme, qui sont les coalitions de groupes signataires de l'accord de paix de 2015, sont une indication que on est disposé. C'est un des dossiers qu'on a envie d'ouvrir. Maintenant, voilà, et Antoine le dit très bien, les rapports de force ne sont pas encore complètement consolidés. Il y a évidemment des résistances, hein, les résistances des partenaires étrangers, notamment français, qui sont pas à l'aise au fond face à cette reprise d'initiative, hein, d'un pouvoir qui est aussi nouveau et dans lequel voilà des militaires sont encore très influents. Ce qui est intéressant de noter, c'est que...
Mais je croyais que ça allait... Pardon de vous couper. Je croyais justement, Gervais Jézéquel, que du côté des militaires français, on n'était pas inquiet du tout. Voire même qu'on considérait que, d'une certaine manière, c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça, quand on se place dans la perspective de la lutte contre les groupes armés, et que finalement, les nouveaux hommes forts dans le secteur de l'armée, par ailleurs, on les connaît très bien, visiblement, du côté de l'armée française, il n'y a aucun problème. On travaille assez bien avec eux, donc tout va bien.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, lorsqu'il y a eu le coup d'État, bon, il y a eu ce moment de condamnation qui est un peu classique, mais au fond, on a fait le deuil assez rapidement du moment Ibeka, hein, du côté français. On avait le sentiment que peut-être que voilà, ce régime-là est arrivé au bout, qu'on ne pouvait en attendre plus grand-chose. Et l'arrivée de militaires au pouvoir, face à une situation qui était une crise sécuritaire, une partie des acteurs français, notamment militaires, se sont peut-être dit c'est pas une si mauvaise affaire d'avoir ces gens-là proches des rênes de l'État, sinon même aux rênes de l'État. Mais là, on voit qu'il y a du côté des nouvelles autorités de transition, des évolutions, une autonomie. Qui je crois pas qui était celle qui était attendue de la part des Français, et donc il y a ce réglage en ce moment qui est en train de se faire, il y a ce rapport de force qui est en train d'être établi dont parlait Antoine, et on va voir en fait. En réalité, c'est très difficile de savoir si les acteurs maliens, qui sont quand même aussi très dépendants d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue financier, des partenaires étrangers, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de leur politique, les moyens d'assumer leur politique jusqu'au bout.
Encore peut-être un mot, Antoine Glaser, et puis ensuite on va prendre la direction de l'Afghanistan, où là aussi récemment on a libéré des combattants, et on va voir si on peut espérer que ça va conduire à la paix, rien n'est moins sûr. Mais il y a une entité qu'on n'a pas encore évoquée. On a dit que certaines planètes étaient alignées, il y a encore des obstacles, Jézéquel nous le disait, notamment la France. Quid de l'opinion? Est-ce qu'aujourd'hui les Maliens considèrent que c'est une bonne idée d'avoir libéré ces combattants, que c'est une bonne idée d'ouvrir des pourparlers, et que enfin peut-être on est sur le chemin de la paix?
Je vais vous dire la vérité vraie, il faut pas se tromper. Pour les Maliens, il faut savoir aussi d'où l'on parle, où ils sont. Quand vous êtes à Bamako, et les gens de Bamako, si vous êtes Songa, Bambara ou autre, et vous dites que vous aviez de la famille dans le Nord, vous allez dire, mais c'est pas possible. Finalement, les Français nous ont toujours empêchés de reprendre le Nord, de reprendre Kidal. Donc eux, maintenant, évidemment, ils se disent peut-être que s'il y a des pourparlers, ça va pouvoir s'arranger, même s'il n'y a pas une véritable autonomie, il n'y aura pas l'indépendance au Nord, c'est notre pays. Encore une fois, n'oublions pas que de Bamako à Kidal, la capitale du Nord, c'est 1500 kilomètres. Donc c'est vrai que les gens, ils pensent que voilà, peut-être qu'avec ces militaires, ils vont quand même reprendre le Nord, ils vont reprendre, donc il va y avoir une sorte d'unité nationale, réconciliation nationale. Ceci dit, il y a aussi, bien évidemment, la vie quotidienne, sociale, économique. Il faut savoir que toute cette zone sahélo-saharienne a les taux les plus bas de pauvreté de l'indice humain de développement, je veux dire. Le problème, c'est aussi beaucoup d'Africains. Le problème, c'est la survie, vraiment, au quotidien. Donc, là, il y avait une espérance avec l'arrivée de... C'est vrai que le putsch a été applaudi, il faut pas dire le contraire. Maintenant, ils attendent de voir les rapports de force. Est-ce que les militaires vont vraiment rendre le pouvoir? Est-ce que dans 18 mois, etc. On sent une expectative.
Ce qui est déjà mieux qu'une opposition.
Il y a une expectative, et il faut pas oublier aussi, et ça arrange pas la France, qu'il y a aussi, vis-à-vis de la France, toujours ces sentiments anti-français, etc. Il y a aussi l'idée de retrouver la fierté. Ça veut dire, c'est nous, maintenant, avec nos militaires, on reprend la main. Alors qu'Ibeka était accusé d'être toujours dans la main d'Emmanuel Macron. Donc, il y a une espèce de volonté d'unité nationale de reprendre la main. Voilà que nous, les Maliens, vous avez vu, nous, il y a un putsch et tout. On a un gouvernement. La CDAO a levé l'embargo. On est chez nous.
Bon,
il y a ce fond, ça. Voilà.
Un paysage pas si sombre, finalement. Voilà. On est avec vous, Antoine Glaser, et vous également, Jean-Hervé Jézéquel, depuis Dakar, dans cette semaine autour de la guerre. Aujourd'hui, pour obtenir la paix, libérer les combattants, c'est notre sujet. On va prendre la direction de l'Afghanistan, puisqu'après l'accord signé en février dernier entre les États-Unis et les talibans sur le retrait définitif de l'armée américaine, le gouvernement afghan a enfin pu rencontrer à Doha les représentants du mouvement insurgé, alors que jusqu'ici, les autorités de Kaboul étaient systématiquement écartées des pourparlers. Mais ce dialogue inter-afghan, il a eu un prix, la libération de plus de 5000 prisonniers.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Les Afghans soutiennent les libérations des prisonniers. Et nous, prisonniers, sommes spécialement heureux car nous allons retrouver nos familles. Certains ont passé 18 ans en prison. Pour ma part, j'ai passé 7 ans derrière les barreaux. J'étais un prisonnier politique et été condamné à mort. Grâce à Dieu, je suis libre aujourd'hui. Je suis heureux. Je félicite les Afghans à propos de cette libération de prisonniers. Chacun peut se réjouir de cela. Puisse Dieu apporter la paix à notre pays.
Voilà donc un témoignage d'un prisonnier taliban fraîchement libéré, un témoignage recueilli au micro de Radio Free Europe. Est-ce que ces libérations vont pouvoir conduire le pays sur le chemin de la paix? Bonjour Khazal Golshiri.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste pour Le Monde, spécialiste de l'Iran et de l'Afghanistan, et vous vous rendez très régulièrement en Afghanistan. Vous y étiez d'ailleurs il y a encore une dizaine de jours. En face des talibans qui ont été libérés par les autorités de Kaboul, on a aussi eu des membres de forces de sécurité afghanes qui ont été relâchés par les insurgés. Donc en fait, c'est un échange de prisonniers qui a eu lieu. J'ai posé la même question que celle que je posais en début d'émission sur le Mali à Antoine Glaser. Est-ce qu'il vous semble que cet échange est équilibré, je mets des guillemets, est-ce que les valeurs militaires, politiques sont comparables?
Non, parce qu'en fait, du côté des forces afghanes, il y a eu 1000 libérations, alors que du côté des talibans, il y a eu 5000. Et déjà, on a des confirmations des autorités de Kaboul que certains de ces combattants talibans qui ont été libérés ont déjà rejoint les camps des talibans et sont en train de mener des attaques contre les intérêts de Kaboul.
On a déjà eu des attaques, c'est-à-dire les membres des talibans, les talibans qui ont été prisonniers, sont déjà retournés au combat?
Certains, oui, certains. C'est le cas de certains.
Vous faites référence à cet attentat qui a lieu récemment dans un centre éducatif de l'ouest de Kaboul qui a fait 24 morts?
Pas pour cet attentat-là, mais les attentats qui ont eu lieu, pas à Kaboul, mais dans les provinces l'été dernier. Oui, il y a eu des confirmations du gouvernement de Kaboul, comme quoi parmi les assaillants, il y a eu des combattants libérés.
Khazal Golshiri, au départ, les autorités de Kaboul ne voulaient pas faire ce deal. Et en particulier, il s'opposait à la libération des détenus les plus dangereux. Et puis finalement, il y a eu cette assemblée de chefs communautaires et de politiciens qu'on appelle une loya jirga qui a été organisée et on a fini par approuver ces libérations. Pour quelles raisons? Et est-ce qu'il faut comprendre que, en réalité, le président afghan, Ashraf Ghani, n'a pas pesé dans cette séquence politique du tout?
Parce que déjà, la façon dont ces pourparlers ont eu lieu entre les Américains et les talibans, ça a donné une légitimité sans précédent aux talibans et ça a fragilisé la position d'Ashraf Ghani de manière plus générale des autorités de Kaboul. Et donc, le régime de Kaboul est arrivé à la table de négociation avec très peu de marge de manœuvre. Et par exemple, moi j'ai rencontré Abdullah, qui est le chef des négociateurs de la part du gouvernement, qui me disait qu'il y avait quand même un abandon de l'idée même d'un cessez-le-feu. Donc il me parlait des cessez-le-feu avec des dates précises, dans les provinces précises, pour que les Afghans puissent se déplacer d'une province à l'autre. Donc tout au long de ces derniers mois, la manière dont les pourparlers se sont déroulés, ça n'a qu'affaibli le régime de Kaboul.
Et le fait que précisément Kaboul désormais participe aux négociations, parce que maintenant il y a un dialogue qui est bien en place, qui a lieu au Qatar, entre le gouvernement afghan et les talibans, et ça n'a pas permis d'avancer.
Bah, pour l'instant, non, tout est suspendu au résultat des élections américaines aussi. Je pense que c'est un peu comme partout dans le monde. Et ils étaient en train de négocier sur l'agenda des pourparlers, les sujets à aborder, et ça piétinait sur tous les points. Mais il y a en ce moment entre 6 et 7 prisonniers talibans à Doha, dont la libération est contestée notamment par la France et l'Australie parce que ces combattants sont accusés d'avoir était impliqué dans la dans le l'assassinat de des ressortissants français et australiens. Mmh. Et donc pour ces prisonniers là, on saura aussi au mois de novembre comment ça va se passer la libération.
Oui, il y a notamment effectivement l'assassinat de cette ressortissante française, cette humanitaire Bettina Gualard, qui avait été tuée en 2002 et pour laquelle voilà, la France s'est insurgée et demande à ce que justement on ne libère pas ces meurtriers. Si j'en reviens aux négociations, vous dites que pour le moment on travaille encore sur le calendrier, mais est-ce qu'on a une idée de ce que pourraient être les revendications des talibans ? Aujourd'hui, c'est un euphémisme de dire qu'ils sont en position de force. En réalité, on est dans une situation où ils contrôlent une très large part du territoire. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? J'imagine une part du pouvoir, mais laquelle ?
En fait, déjà, ils demandent le départ total de toutes les des troupes américaines. Donc, c'est prévu d'ici la fin de le mois de mai 2021. Après, je pense que derrière, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment un gouvernement de transition, parce qu'ils veulent pas dealer, ils veulent pas avoir affaire à Chafrani, dont ils contestent la légitimité. Donc, ils veulent au fond faire partie du pouvoir en place, quoi.
Et du côté des Américains, j'imagine qu'on n'est pas non plus prêt à concéder un retrait total et définitif sans concession. Qu'est-ce qu'on demande ?
Et dans l'accord qui a été signé entre les talibans et les États-Unis, une des conditions était une réduction de violence de la part des talibans. Mais en fait, sur le terrain, c'est pas du tout le cas. Il y a eu il y a deux jours un rapport de l'ONU qui disait que depuis le début des pourparlers entre Kaboul et talibans, les violences ont même augmenté. Mmh. Et donc dans les faits, mais les pourparlers continuent. Et si Donald Trump est réélu, et il y a même quelques jours, il a fait un tweet en disant qu'il serait prêt à faire rapatrier les troupes américaines d'ici Noël. Donc ça dépendra vraiment du prochain président. Américain.
Oui, mais c'est vrai que ce qu'on veut du côté de l'administration américaine, c'est aussi que l'on ne laisse pas les combattants étrangers prendre une trop grande place dans le paysage politique, dans le paysage afghan. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce désir de les pousser,
de
les engager dans la lutte contre Al-Qaïda, Daesh, etc. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur le Mali. On essaye de faire le tri, si je puis dire, entre les locaux et les autres.
Exactement. Donc c'était dans l'accord entre Washington et les talibans, c'était un arrêt des attaques contre les intérêts américains et de leurs alliés, les intérêts de leurs alliés. Mais en fait, sur le terrain, les attaques contre les civils continuent et elles se sont même s'accentuées.
Raza El-Golshiri, est-ce que vous pensez que, au-delà de ces discussions, au-delà du retrait américain, au-delà de ce désir de justement organiser une lutte entre les talibans et les autres combattants, est-ce que vous pensez que le retour au pouvoir des talibans est inévitable ? Et le cas échéant, est-ce qu'il vous semble qu'on va tout simplement revenir à la situation d'avant 2001 où, au fond, les talibans ont aussi un peu tirer les leçons, j'allais dire, de leur premier passage au pouvoir et qu'ils sont peut-être prêts à faire des concessions par rapport, je mets des guillemets évidemment à tout ça, mais par rapport à ce qui était leur projet politique initial.
Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile de répondre à ces questions, mais je peux vous parler des sentiments des Afghans, surtout les femmes qui ont eu accès à l'éducation, à l'emploi depuis la chute des talibans, qui craignent aujourd'hui un retour à l'arrière, un retour au pouvoir des talibans. Et aussi, les inquiétudes sont aussi partagées par les minorités hazara, qui sont les minorités chiites du pays.
Et, ouais, vous avez notamment rencontré une femme qui vous dit qu'elle a très peur que les femmes deviennent les victimes de la paix. Elle a cette terrible formule, une jeune femme qui habite à Kaboul.
C'est ça. Donc, elles se sentent les victimes de la guerre, mais aussi les victimes de la paix, parce que ces derniers mois, il y a eu des attaques très ciblées contre les femmes en vue, notamment un membre de la délégation de Kaboul, un ex-député, une autre jeune femme qui travaillait dans une organisation de la défense des droits de l'homme, et un chef de police. Donc, et aucune des femmes que j'ai rencontrées, tout était d'accord pour me dire qu'il n'y a aucun indice comme quoi les talibans ont changé d'idéologie, qui seraient prêts à faire à avoir notre idéologie, à avoir notre politique.
Et alors justement, parmi ceux qui s'inquiètent, vous parliez des Hazaras, donc communauté chiite. Pourquoi s'inquiètent-ils en particulier ?
Parce qu'ils ont été massivement massacrés entre 1996 et 2001, donc sous le règne des talibans sunnites. Donc, par exemple, moi, je me suis rendue dans la vallée de Bamiyan, donc majoritairement Hazara, donc tous ont été témoins de ces massacres ou ont entendu leurs proches parler de ces jours sombres, à reprendre leurs mots. Donc ils ont les yeux bridés, ils sont très reconnaissables et ces gens-là ont pu avoir accès à l'université, à l'emploi après la chute des talibans. Donc ils ont beaucoup de choses à perdre si les talibans reviennent au pouvoir.
En tout cas, à vous entendre, Raza Golshiri, on n'a pas le sentiment du côté de l'Afghanistan qu'on est un tournant et que ces libérations de combattants vont permettre d'engager une paix durable. C'est pas du tout un sentiment qui est partagé.
Pas pour l'instant. C'était une condition préalable aux négociations entre Kaboul et Taliban, mais pour l'instant, ça n'a pas fait avancer les négociations.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Razal Golshiri. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Le Monde. On retrouve vos excellents papiers sur le site du Monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment à nos deux invités, Antoine Glaser qui était en plateau ici avec nous à Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur cette situation malienne. Je rappelle que vous êtes notamment co-auteur avec Thomas Hofnung de « Nos chers espions en Afrique » qui était paru chez Fayard en 2018. Un grand merci également à Jean-Hervé Jézéquel qui était avec nous en direct de Dakar. Dans un très court instant, on va retrouver Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et hier, vous nous présentiez, Brice, un livre, Le reste n'était qu'obscurité, de John Savage. Je crois avoir compris qu'il est consacré à l'un de vos groupes de rock favoris, Brice.
Eh oui, j'avoue avoir éprouvé un choc absolument bouleversant à l'écoute de Closer, qui était donc le deuxième et le dernier album de Joy Division. Lorsqu'il est sorti en 1980, Ian Curtis, le chanteur du groupe, était déjà mort. Il s'était pendu la veille du jour où le groupe devait s'envoler pour une tournée américaine censée lui assurer une reconnaissance internationale, et cela jetait rétrospectivement sur cette musique absolument désolée une lueur encore plus tragique. Le rock, musique dionysiaque, avait rarement servi jusqu'à Joy Division à communiquer le désespoir et l'accablement. Depuis, c'est vrai qu'on a connu The Cure ou Muse, mais enfin, à la fin des années 70, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Le livre de John Savage est entièrement constitué de témoignages compilés avec des interviews des membres survivants du groupe, des personnalités qui en ont accompagné la brève carrière, comme le présentateur de télévision Tony Wilson, le fondateur donc du label Factory, sur lequel ont été enregistrés les disques de Joy Division, ou Peter Saville, à qui on doit les très étonnantes pochettes des albums de Joy Division. Je vous lis un témoignage de Dylan Jones, un témoin retrouvé par John Savage, dans ce livre vraiment à conseiller. Voilà ce qu'il dit. Les crises se multipliaient à mesure que le rythme des concerts devenait plus intense, mais c'était peut-être aussi dû à sa vie personnelle parce que ces deux aspects de sa vie contribuaient à parts égales au stress qu'il éprouvait et sa vie personnelle se désintégrait du fait que son mariage battait de l'aile et qu'il aimait une autre femme. C'était quelqu'un de respectable. Il voulait agir dans l'intérêt de tout le monde et ne blesser personne, si bien qu'il se sentait littéralement déchiré. À vrai dire, je ne pense pas qu'il aurait pu continuer ainsi. Il l'a fait, une crise très grave sur scène, sous les yeux d'un public parmi les plus nombreux devant lesquels il n'ait jamais joué, et il s'est sans doute dit « ça ne peut pas continuer ». Cette crise a eu lieu au Rainbow. Il a dû se sentir vraiment humilié que tous ces gens le voient dans cet état. Les gens trouvent ça glamour, waouh, une rockstar qui s'effondre dans la batterie. Mais il ne l'aurait pas vu de cette manière. Il se serait senti vraiment honteux et impuissant. On écoute « Decades » qui figure sur l'album « Closer » de 1980. We knocked on the doors of hell's darker chamber. Rushed to the limit, we dragged ourselves in. Watched from the wings as the scenes were replaying. We saw ourselves now as we never. Trail of the trauma, degeneration. The sorrows we suffered have never worked free. Le titre du livre de John Savage, c'est « Le reste n'était qu'obscurité », l'éditeur c'est Alia, et je signale aux auditeurs de France Culture que Amaury Chardot a consacré une excellente émission au Manchester Sound 1976-1985, qui s'appelle « Les brumes existentielles », et on y entend Joy Division en concert.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France.